que sa vie était un enfer et qu'il aimerait bien plus en être là demain. Oh, il faut qu'on lui cause. Tu pourrais peut-être l'appeler pour lui dire que tu l'aimes. Que la vie est injuste, qu'elle n'est pas toute rose, mais qu'on veut pas le voir nu couvert de chrysanthèmes. C'est ce matin, j'ai croisé ton frère. Il m'a dit qu'il en pouvait plus du chagrin, que ses idées étaient plus très claires, et qu'il aurait bien quand même aimé croiser quelqu'un. C'est sûr, depuis que les années tracent, y en a qui sont restés sur le bord du chemin. Et c'est pas facile de les regarder en face quand t'as plus le temps ni le cœur de leur tendre la main. Sacré frère, c'est lui qui nous mettait les claques quand on était gamin. Sûr que dans le quartier, c'était un grand frère. On était fiers quand on le croisait et tout le monde l'aimait bien. Oh, faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas le laisser seul et puis si on fait rien, c'est pas dit que demain ses paupières soient closes. Mais on sait jamais, tu connais ton frangin. C'est ce matin, il m'a dit ton frère, que sa vie ne valait que le coup d'être vomi, que le bonheur, c'est quand on espère, et que tu n'attendais plus rien depuis une décennie, et que puisque c'est ici l'enfer, lui se prendrait bien le ticket pour le paradis, et gratuit en prime, il veut pas s'en faire. Allez viens, j'ai peur qu'il soit déjà parti. C'est ce matin, j'ai croisé ton frère. Il m'a dit qu'il en voulait plein à la vie, que son cœur était un grand désert, que dedans il n'y avait plus rien, qu'il lui avait tout donné. Et qu'elle avait tout pris.
Era cavara festo, gioco de tu sul resto, se vino versada in opuma.
musique.
Caravanana maximum.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pantalon!
Vive le soleil!
Vive les oreilles!
Libre!
Things given to me, things given to me, in a little box. Given to me, would you? Who are you? In a little box. Things given to me. Things given to me.
Memories of a lost life, memories of a lost time. How can I honor you? Memories of a lost time, memories of a lost life. Ooh, wanna carry you. Were you preparing the space for me? Need to put in order, were you? Need to put in order, were you? In the little box. Given to me, things given to me.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Stockholm, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières, étranges, hors normes. Et aujourd'hui, nous recevons Linda Etcheux.
Bonsoir.
Bonsoir, bonjour Linda.
Bonjour.
Bonjour Linda, nous sommes, il est 14h30.
D'accord, il est 14h30.
Voilà. Alors, on a commencé l'émission avec un extrait de ton spectacle, In This House, dont on va parler plus tard. Mais avant tout, j'aimerais savoir, tu es né en Suède, et est-ce que c'est là-bas que tu as commencé ta formation musicale? Et quelle a été ta formation musicale?
Oui, tout à fait. J'ai commencé en Suède petite. J'avais la chance que dans mon école maternelle, il y avait deux messieurs qui sont venus avec leur violon, qui ont joué, fait des jeux. Et finalement, on est allé écouter un concert. J'avais 6 ans ou 7 ans, 6 ans, je crois. Et plus tard, j'ai compris que c'était le quartet, le Fresk Kvartetten. C'est un des plus grand quartet de cordes de l'époque en Suède, du coup, les années 80. Et ça m'a complètement scotché. Et je rêvais d'une seule chose, c'est d'avoir un petit violon, moi aussi, et de jouer avec eux. Et j'ai dû plaigner mes parents jusqu'à 8 ans, où j'avais finalement place dans une école de musique, conservatoire, et j'ai commencé le violon, là, du coup, assez tôt. Et pour, en Suède, on commence souvent à 10 ans plus tôt. Après, très vite, j'ai découvert aussi les percussions et je suis tombée sur un prof de percussions formidable qui nous a amené à aussi avoir plein de concerts. Je m'estime très très heureuse d'avoir découvert ça et j'ai décidé assez jeune que j'allais devenir percussionniste. Et puis, voilà, un lycée à Stockholm formidable de ce qu'on appelle en français CHAM, je crois. Sauf que Charme, c'est peut-être plus jeune. En tout cas, moitié temps musique, moitié temps autre chose.
Ah oui.
Après ça, j'ai parti au nord de la Suède, dans une école un peu préparatoire pour le conservatoire, où j'ai rencontré un musicien percussionniste, mais qui est un très grand improvisateur. Mais pas que de l'improvisation jazz avec des gammes, cette improvisation qui est finalement pas très improvisée toujours, mais il a ouvert des portes, des voies vers l'improvisation et aussi le fait qu'on peut composer sans être compositeur, on peut aussi créer de la musique de manière différente. Je crois que cette rencontre m'a beaucoup décomplexée, en fait on peut tous créer de la musique sans trop se poser des questions.
Alors, tu l'as pas cité, le nom de ce musicien?
Ah, c'est Anders Åstrand, il s'appelle, grand vibraphoniste et improvisateur de tout genre.
Alors, c'est lui qui t'a mené vers l'improvisation, parce qu'avant, tu avais un cursus classique.
Oui, avant et aussi après, parce qu'après ça, je suis partie à Copenhague pour faire des études donc, supérieures, conservatoire royal et tout ça, dans une école quand même extrêmement classique.
Oui.
Où à Copenhague, le jazz se passe dans une autre école. Où le jazz et musique actuelle, c'est complètement ailleurs. On ne mélange pas.
D'accord.
En tout cas, comme moi, j'étais étudiante là. Du coup, très classique, mais moi, je me suis toujours cherché les compositeurs, la musique contemporaine, et quand même être dans l'expérimental, même si c'était avec des partitions. Donc, j'ai vraiment continué un cursus classique, mais toujours avec cet héritage, ou pas héritage, mais avec l'improvisation près de moi. Et puis, j'ai fait plein d'autres choses. Moi, j'ai joué aussi dans des groupes de rock. J'ai sillonné la Pologne avec quelqu'un qui, après, est devenu une espèce de vedette en Pologne. Mais lui aussi, il était, du coup, fils de migrants. Czesław Mozy, il était fils de migrants polonais.
Ouais.
Et au conservatoire, il a réuni un groupe de musiciens. On était 5. Et on a créé une espèce de musique qui était notre propre musique. Et on va peut-être passer un extrait de ça aussi.
Ah oui.
Et avec ça, on a beaucoup tourné en France. On était avec un manager qui était... Après, on a compris qu'il était... comment dire ça? On est accro au jeu.
Ah oui, d'accord.
Et en fait, on n'était jamais payé, mais comme on était étudiant, on trouvait ça normal. Et en fait, il nous a roulé comme il faut. Donc ça, le casse couché, avoir un manager qui pique tes sous, ça je fais, voilà. Et tourner assez à rock'n'roll, au même temps que j'ai des cursus très classiques à Copenhague. Ouais. Du coup,
alors, comment il s'appelait ce groupe rock?
Donc au départ, ça s'appelait Tesco Value. Voilà, comme une marque de bouffe anglais assez nulle. Après, très, très vite, c'est devenu Czesław Spiewa, qui veut dire Czesław chante en polonais.
Ah oui.
Et c'est drôle parce que Czesław, du coup, cet ami, il a commencé avec nous et il a vraiment commencé une carrière. Du coup, maintenant, quand c'est The Voice, des choses comme ça en Pologne, il est dans le jury.
Ah, d'accord.
C'est très drôle. Et on était vraiment très assez... oui, c'était... C'est une chouette truc qu'avait vécu. On partait avec notre bus VV qui est tombé en panne au fin fond. On est presque en Ukraine, le bus tombe en panne, etc. Du coup, et c'était très créatif. On a vraiment inventé notre propre manière de faire des arrangements.
Ah oui.
Du coup, je crois que quelque part, cette chose de pas juste être interprète, pas juste jouer ce que les autres te donnent, ça a déjà commencé à... Là.
Ah ben ça donne envie d'écouter.
Oui, mais on va écouter un extrait.
Sometimes to cry. So the virgins can get it first and kill the whole incurable thing. So we all become as one, like children of the corn. We'll be seen as on the run. We'll be lovers to the gun, preaching naked for the sun to shine for what we thought was done.
Czesław Spiewa. Et lui, il s'appelle Czesław Mozil.
Bon, alors revenons à ton cursus classique. Parce que moi, j'ai une question concernant les percussionnistes. Est-ce qu'il y a un répertoire classique, tu vois, ce qu'on appelle classique hein, ici. Moi, j'ai plutôt l'idée que pour les percussionnistes, on va tout de suite dans le contemporain.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
C'est un peu ça. Et Après, pour apprendre nos instruments, des fois on joue Vivaldi au Bach ou d'autres choses sur les claviers, sur le marimba, le vibraphone.
Ah oui, d'accord.
Mais nous aussi, on n'est pas sourd. On entend bien que Vivaldi au marimba, c'est pas comme Vivaldi au violon. Donc, pour nous, c'est toujours une frustration. Et par contre, à partir de, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, ouais, il y a vraiment eu une explosion pour la musique de percussion avec... Tous ces gens qui cherchaient de construire un nouvel monde, cherchaient de nouvelles expressions, même c'est bien avant, après la Deuxième Guerre mondiale, et avec Varèse travaille beaucoup plus de matière sonore, et pour s'éloigner de ces sons classiques, des fois un peu fatigués, on va dire, ça sonne toujours pareil, je ne pense pas ça, mais on pourrait dire ça. Mmh. Et les percussions étaient un peu le chouchou des compositeurs, et toujours la recherche de nouveaux sons.
Moi, je pensais à Varèse, justement. Est-ce qu'il y a d'autres compositeurs que tu pourrais citer?
Un grand, qui est beaucoup plus tard, mais Xenakis, évidemment, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour les percussions, avec notamment des nos classiques, du coup, à nous, pour montrer qu'on est vraiment quelqu'un en percussion, c'est de jouer les solos... de Xenakis avec Safa, qui est une espèce de monument dans le répertoire de percussion. Et après, évidemment, Stockhausen aussi a fait beaucoup de choses pour bouger les limites avec des solos aussi qui s'appellent, il ne faut pas que je me trompe, Cyclus.
Oui.
Et aussi avec des concepts où l'interprète peut choisir lui-même où il commence le morceau, où il le finit. Oui. Et avec des manières de noter qui aussi laissent une grande responsabilité à l'interprète, qui devient presque chaque interprète devient en quelque sorte un co-compositeur. Il y a aussi Feldman qui a fait des partitions comme ça, qui sont très libres, même si c'est très écrite. Mais il faut que la personne qui interprète la pièce fait tout un travail aussi de recherche avant.
Alors, tous ces compositeurs, Xenakis, Feldman, Varèse, tu les as interprétés?
Oui.
Est-ce que tu continues à faire cette carrière, entre guillemets, de...
Non, pas en carrière. C'est drôle, j'ai travaillé avec une chorégraphe récemment qui s'appelle Mathilde Vrino. Et elle a créé une pièce qui est une espèce de performance qui dure 3 heures et c'est destiné aux tout petits. Mais là, elle a vraiment voulu que je joue des morceaux, des vrais morceaux importants. Du coup, j'ai fait une interprétation de Feldman, notamment de The King of Denmark, qui est, du coup, avec une partition graphique et tout mesuré sur seconde, tout ça. Du coup, mais c'était un peu exceptionnellement, mais j'ai beaucoup aimé faire ça. Après, je joue un tout petit peu avec l'ensemble des Dalus ou des choses comme ça, mais c'est très ponctuel. Je suis beaucoup plus dans des créations qui sont plutôt dans l'ordre de spectacle, on va dire.
Ah, on va en reparler.
Oui.
Mais je sais aussi que tu enseignes désormais, et par rapport à ce cursus dont on vient de parler, académique, et puis d'une part, et puis d'autre part, l'improvisation dont tu as parlé, est-ce que tu as des idées toi-même? Est-ce que tu as des idées sur la façon dont on peut enseigner la musique?
Bon, en fait, je n'enseigne pas.
Ah bon?
Au quotidien, au hebdomadaire. Ça ne marche pas, malheureusement.
Ouais.
Mais j'ai beaucoup d'idées sur l'enseignement.
Ah bah, est-ce que tu peux nous...
J'ai beaucoup enseigné.
Ouais.
Et au Danemark, notamment, j'avais des classes de percussion. Et je crois que je ne pourrais pas vraiment enseigner comme ça dans un conservatoire en France, parce que on s'en foutait un peu des partitions aussi.
Ah oui.
Je les apprenais beaucoup. Du coup, c'était aux enfants. Et ça ne fait pas une formation très complète si on n'apprend pas à lire des partitions. Mais je les apprenais vraiment en montrant, en jouant ensemble. C'était un enseignement assez physique. On jouait de la musique ensemble. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, et les enfants aussi. Mais ce n'était pas une formation professionnelle, c'était des enfants de voilà, 8 à 16.
Mais ce n'était pas en conservatoire?
Non, en fait, c'est beaucoup plus libre au Danemark. On n'a pas d'examen à la fin de l'année. Par contre, on a fait plein de concerts et ils ont fait énormément de progrès. Mais je n'avais pas d'obligation de leur apprendre le solfège. Mais en même temps, ils n'avaient pas non plus des cours de solfège à côté. Du coup, ça fait... Oui, c'est moins complet.
C'est moins complet, mais c'est plus libre, peut-être.
Oui. Ah. Et c'est plus... Oui, des fois, en France, je rencontre souvent des Français qui disent « Ah, oh, j'aurais adoré faire de la musique, mais la première année de solfège, c'était trop dur pour moi, j'étais pas douée et tout ça. » Ça, c'est des gens de nos générations. Je crois que ça a beaucoup changé maintenant. Je dis « Mais pourquoi tuer l'envie de faire de la musique chez les enfants avec du solfège ?» Ça, moi, j'ai commencé le solfège quand j'avais 15 ans. Oui. J'ai appris ça super vite. Mmh. C'est pas difficile quand on a 15 ans intellectuellement. Ça va tout seul, déjà, si on connaît la musique un peu. Mmh. Donc, voilà, j'ai plein d'idées là-dessus, évidemment. En ce moment, c'est plus des trucs ponctuels. Je vais faire masterclass la semaine prochaine, ou des ateliers, ouais. Des choses comme ça. Mmh.
On écoute un morceau de Fake et puis on en parle après.
Le vrai moi profond, c'est cela, le sujet. Être soi-même. Mais vous, par exemple, cet après-midi, en ce moment même, là, est-ce que vous êtes vous-même? Chez les hommes, on dit « Sois toi-même ». Chez les trolls, on dit « Sois toi-même ». Suffit, verre d'Aïssel, knock.
Radio Libertaire, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et on reçoit aujourd'hui Linda Etche. Alors Linda, on a écouté Fake, mais avant d'en parler de Fake, j'aimerais savoir, dans tes activités, il y a l'accompagnement de musical, de spectacles vivants, comme du conte, comme on vient d'entendre, ou du théâtre. Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette direction-là?
Ah, c'est drôle parce que quand j'ai commencé, du coup, je suis partie à Copenhague faire des études. Je me souviens, le premier cours que j'avais avec mon prof, il dit « Alors, et toi, qu'est-ce que tu veux faire ?» Tout ça. Je dis, moi, je cherche pas à rentrer dans un orchestre. Moi, je joue de la musique de chambre, je vais jouer avec du théâtre, la danse, tout ça. Il a noté ça dans un coin, dans un cahier qu'il a probablement plus jamais consulté. Mais c'était déjà là dans mon idée. Je crois que toujours la rencontre avec d'autres formes d'art, ça m'a toujours passionnée. Et j'ai aussi, ado, je faisais du théâtre, tout ça. Mais cette chose de ne pas trop voir les limites entre les formes d'art, je crois que ça m'a toujours intéressée.
Mais alors, comment tu envisages la bande-son, hein, entre guillemets, je ne sais pas si c'est peut-être pas forcément enregistré, mais bon, tu vois ce que je veux dire, la bande-son pour un spectacle, et notamment pour l'accompagnement de la voix. J'imagine que ce n'est pas la même chose que de composer pour un concert non. Strictement musical.
Et moi, j'ai commencé par ça, parce que quand j'ai rencontré mon mari, Abby Patrix, on a commencé par travailler ensemble très vite. Et avant ça, j'avais écrit des chansons, mais je n'avais jamais composé des symphonies. J'écrivais des chansons pour mes formations que j'avais. Et avec les histoires... j'avais déjà le forme, en fait. On a une forme.
Ah, voilà.
Et du coup, c'était entre faire une bande-son pour un film, sauf que je suis avec lui sur scène et on interagit. Lui joue aussi. Du coup, il a plus l'aspect scénique. Mais en fait, comme on a une structure d'une histoire, et pour moi, la musique, ça a toujours aidé à structurer les histoires, de les souligner. Des fois, on a presque comme des refrains, mais en fait, l'histoire ou le texte, ça donne le cadre. Mmh. Et dans ce cadre-là, comme un cadre qui donne une espèce de liberté, parce que du coup, il y a un début, un milieu, une fin, ouais. et on a juste à y aller.
Alors, est-ce qu'on peut parler de musique narrative?
Oui, on peut. Je trouve. Après, il y a des choses différentes. Et des fois, il y a une musique qui... Des fois, ça va être le paysage sonore de là où on est.
Ah oui.
Des fois, c'est plutôt le rythme de la voix, ou c'est la musique dans la musique dans la parole qui donne les idées. Après, ce que moi je ressens ou m'imagine, c'est peut-être pas du tout pareil pour l'auditeur, mais en tout cas c'est les sources d'inspiration, tout est là dans le texte.
C'est le texte qui crée la base de...
Oui, le texte est aussi, ce qui est différent avec un texte de théâtre et le conte, c'est que le conte c'est plus comme des scènes en fait qui se passent. Le conteur va pas toujours utiliser les mêmes mots. On sait qu'on commence sur la plage et là arrive un phoque et le phoque se transforme en homme. Et c'est parti, et la fille... Voilà, on a un déroulé qui n'est pas forcément mot à mot. Chaque fois, on sait dans quel ordre on arrive dans des endroits différents et où on va. Et puis tout d'un coup, on va décider avec Abby d'avoir un truc qui est complètement écrit où il faut que lui, le pauvre, fasse pareil à chaque fois, ce qui n'est pas toujours évident. Ou une chanson qui revient, voilà. Les outils de la musique.
Alors, on avait reçu Abby Patrix il y a quelques temps maintenant, mais peut-être tu peux nous parler de Fake. Alors, j'ai vu que vous avez joué ce week-end à Ormesson-sur-Marne, c'est incroyable.
Oui,
Ormesson-sur-Marne, Ormesson. Ah là là. Et bah oui, et c'est quand même quelque chose, ça. Et est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement en quoi consiste le spectacle Fake?
Alors, Fake, c'est donc Abby Patrix et moi-même, on a rencontré Wilfried Wendling, qui est le directeur de la Muse en circuit, CNCM à Alfortville. Et d'abord, on a fait une espèce de labo très libre, improvisation. Du coup, on était des musiciens, des conteurs, des musiciens électroniques, des instrumentistes avec Alexandra Grimal, entre autres, et d'autres personnes. Et on a fait des performances avec ça, et c'était passionnant. Et puis, je crois, un peu de ça est née l'envie chez Wilfried de faire un spectacle qui était c'est vaguement basé sur Peer Gynt. Mais dans la situation, on est en espace public. On est donc Wilfried Wendling, qui est musicien électronique. Moi, objet, je joue ce que je trouve, j'ai un dispositif sonore où j'ai des microphones sur le poignet, du coup tout ce que je touche peut potentiellement devenir musique et son. Et Abby Patrix avec un microphone qui raconte. Des fois on a des invités aussi, on a eu des très chouettes musiciens invités.
Je me souviens de Julien Robert.
Oui, Julien Robert, il y avait Julien Després qui est passé aussi, Vidal. Maintenant, son nom m'échappe. Bref, mais Abby, donc, il raconte à la fois, il improvise avec ce qu'il y a autour de nous, avec le public, il interviewe des gens. Et après, des fois, il passe dans le rôle de Peer Gynt, où il est carrément au mariage d'Ingrid et il parle à Montagne. Voilà, je crois que si on ne connaît pas la pièce Peer Gynt, on ne comprend absolument pas et ce n'est vraiment pas grave. Mais il y a une espèce de plusieurs couches d'improvisation, de narration, des textes préenregistrés, il y a des extraits de France Inter où on a un extrait sur le mensonge, où il y a des petits bouts de politiciens qui parlent, et c'est assez formidable parce qu'on tousse un peu. Et, Macron se prononce sur l'âge de la retraite il y a 5 ans peut-être. Bon, bref. Et, donc c'est un sacré mélange de trucs. Et moi, j'ai ce. Et le public a tous des casques.
Ah oui,
nous
on
aussi.
Est au casque,
donc,
oui.
C'est un spectacle, c'est une balade contée sous casque. Et on rentre dans une espèce de bulle. Et moi, très souvent, je ne me souviens pas ce qu'on a fait parce que c'est presque comme comme une transe.
Et alors, toi est-ce que ta partie à toi, est-ce que c'est complètement improvisé? Est-ce qu'il y a quand même une trame? Est-ce que c'est un peu composé? Comment ça se passe?
Je veux dire que c'est évidemment quand on fait un spectacle plusieurs fois, est-ce que c'est complètement improvisé? Il y a toujours des choses qui sont complètement improvisées parce que je ne sais pas sur quoi je tombe. Je trimballe une boîte à outils avec des choses dedans. Mais très souvent, ce que je préfère, c'est de jouer sur ce que je trouve. Donc, s'il y a des poubelles qui ont une bonne résonance ou des feuilles ou. ou n'importe quoi. On trouve souvent des choses qui sonnent bien. Après, j'ai ma petite boîte à outils. Des fois, je sors des trucs et je joue avec ça. Il y a quand même un début où j'ai une petite instruction de la part du compositeur qui me demande quand même de faire plutôt du bruitage au début qu'on ne comprend pas trop. Mais et on finit toujours avec un solo de vibraphone. Alors, le point de départ et l'arrivée à la fin sont pas écrites, mais décidées, on va dire.
Voilà. Ouais. Alors, ça s'est bien passé à Ormesson-sur-Marne?
Oui, c'était super.
Il a plu,
du coup, on est resté. On a pas fait à l'extérieur, mais c'était bien.
Ah, bah, dis donc. qu'est-ce que... Ah oui, je voulais que tu nous parles aussi de la compagnie Le Cercle.
Oui.
Avec Abby Patrick. Comment ça s'est créé? Comment vous êtes rencontrés, d'ailleurs?
Notre rencontre, c'était un masterclass de conte au Danemark, où un de mes amis était invité comme musicien, parce qu'il voulait travailler avec des musiciens. Donc, Abby faisait travailler des conteurs nordiques, il y avait un groupe nordique qui se rencontrait tous les ans, et avec Abby, du coup, comme inspirateur ou professeur. Ils avaient invité des musiciens, et mon ami, malheureusement, il était empêché, il m'a demandé de le faire à sa place.
Ah, okay.
Et du coup, comme ça, moi, je ne connaissais pas le conte du tout. Je ne connaissais pas, évidemment pas Abby Patrick's, et depuis, on ne s'est pas vraiment quitté.
Ouais.
Et on a commencé tout de suite, en fait, à créer... du coup, cette masterclass-là, j'ai du coup accompagné les conteurs, improvisé avec eux, construit des petites formes. Et très vite, on a commencé à faire la même chose avec Yabi. Je vois que notre première performance publique, c'était 3 mois plus tard.
Ah oui. C'était dans quelle année? 2007, j'ai vu.
2006, je crois.
2006,
oui, je crois.
Ah oui, d'accord. Et donc, vous avez créé cette compagnie? Ou elle existait peut-être?
Non. Abby a créé cette compagnie bien avant.
Oui, oui,
du coup, c'est pas ma compagnie.
D'accord.
Ça, c'est sa compagnie qu'il a créée.
Oui, c'est vrai. La compagnie du Cercle. Alors, il y a une nouvelle création, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Tu parles de l'Odyssée de Ella?
Voilà.
Oui, c'est un... création qu'on a fait pour des collégiens, en fait. Et là, c'est Abby qui voulait vraiment adresser la parole de la place de la femme dans l'histoire et toutes les histoires qui ne sont pas racontées, tous les destins qui ne sont pas dans les livres de l'histoire. Donc, on a créé un personnage qui est une jeune fille au nord de la Norvège qui n'accepte pas de vivre comme une femme traditionnelle, qui va attendre que les hommes reviennent de la mer et tout. Elle voulait pas ça. Du coup, elle se déguise en garçon. Elle part dans le monde. Elle rencontre d'autres cultures. Elle passe par Groenland et découvre que là, la relation entre hommes et femmes est complètement différente parce que pour qu'on survive, il faut que tout le monde chasse, etc. Du coup, elle vit une espèce d'aventure, une odyssée. Elle rencontre Anita Conti sur notre bateau. Elle passe en Bretagne, arrive à Paris en 68. Voilà, on a inventé cette histoire. Je l'ai quand même... approuvé ou pas.
Ah oui.
Et puis, on a créé, du coup, j'ai créé une musique électronique, électroacoustique pour ça. Donc, on raconte ça derrière une table. Et on a pu arriver à s'installer en 40 minutes et puis jouer devant des enfants. Et puis, c'était suivi par un débat sur le genre. Et normalement, on aurait dû avoir quelqu'un qui mène ce débat avec nous, parce que c'est quand même pas notre métier. Oui. Mais on a essayé de mener un débat sur le genre avec des collégiens en banlieue parisienne. C'est fort intéressant. Il faut pas s'énerver. C'est intéressant.
Super. On écoute une chanson.
Oui, on écoute une chanson.
Dieu Seigneur, donne-moi une fille, une fille.
c'est Yon, un pêcheur des îles Lofoten, le père de notre histoire. Il arpente les rues autour de la maternité et il répète sans cesse « Enpik, Enpik, oh good, gimme Enpik, une fille, une fille !» Tous les jours, elle descend sur le bord de l'eau, elle plonge dans l'eau glacée, elle nage, elle fortifie son corps, quelle que soit la saison, quitte à briser la glace. Tous les jours, elle se baigne, elle nage. Bientôt, elle est plus forte que tous les autres enfants du village. À 10 ans, on a le droit d'aider sa mère à travailler. Alors le poisson coupe la tête, ébreuille les entrailles, enlève l'arête principale, nettoyé, salé, séché et accroché sur d'immenses cadres en bois qui font la beauté des îles Lofoten. Oui, Ella aime travailler. Quand elle travaille, elle se sent plus libre.
Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient.
Dans une île d'Extrême-Orient.
Le pélican de Jonathan, au matin, pond un œuf tout blanc. Et il en sort un pélican, lui ressemblant étonnamment.
Lui ressemblant étonnamment.
Et ce deuxième pélican,
doua,
pond à son tour un œuf tout blanc.
Tout ça, un autre qui en fait autant.
Oh non, un autre qui en fait autant. Et cela peut durer pendant très longtemps. Si l'on ne fait pas comme les avant,
si l'on ne fait pas,
si l'on ne fait pas comme les avant,
si l'on ne fait pas,
si l'on ne fait pas comme les avant.
Si l'on ne fait pas d'omelette avant.
Alors, Linda, à l'instant, on vient d'écouter un extrait de « Comment ça va sur la Terre ?»
Oui.
Parce qu'on va parler de ta rencontre avec Elsa Birger. Comment et dans quel cadre l'as-tu rencontrée ?
Bon, en fait, ça a commencé avec le rencontre avec Michèle Burette, qui est une accordéoniste, compositrice, chanteuse, et qui, entre autres, pour ceux qui connaissent, a eu un trio qui s'appelle Pied de Poule.
Ah oui, je me souviens.
Oui. Et elle, du coup, elle est quelque sorte ma famille française, que maintenant j'ai une famille française. Et nous, on s'est rencontrés très vite comme musiciennes, on a commencé à faire des petites choses ensemble. Et puis, elle a sa fille qui chantait, qui était assez jeune. Et je crois que Michel avait un peu envie de nous filer un coup de main toutes les deux pour avoir... d'avoir du travail, d'avoir de l'expérience et tout ça. Du coup, elle nous a proposé de monter un trio jeune public. Mmh. Elle nous a dit, bon, mais on va faire une dizaine de dates, on fait des petites chansons et tout ça. Mais en fait, on a fait un super spectacle. Je crois qu'on a joué 150 fois, quelque chose comme ça.
Ah oui.
On fait une grosse, grosse tournée avec ça. Pauvre Michèle, elle avait peut-être pas du tout envie de tourner autant, mais on l'a trimballée avec nous. Et en faisant ça avec Elsa, du coup, qui était sa fille, on a eu bien envie de continuer à travailler ensemble. Mmh. Et notamment, Elsa aime beaucoup chanter dans d'autres langues que le français,
oui.
Grec, italien, ce qu'on veut, japonais. Et le suédois. Du coup, on a décidé que notre concept, c'est franco-suédois.
Oui.
Donc, söta salta, ça veut dire sucré salé en suédois. Et j'ai surtout choisi parce qu'il y a plein de points sur le A et le E. Et pour notre premier spectacle, on a voulu travailler sur l'amour biscornu, tous les amours étranges, la jalousie, on était un peu sur le consentement, c'est un peu avant l'heure, mais toujours avec assez décalé et avec de l'humour. Du coup, on a choisi des très belles chansons françaises et suédoises de toutes les époques, des petites choses tradies. Et puis, on est monté jusqu'à les années 80 avec Rita Mitsouko.
Ah d'accord, c'est le spectacle « J'ai tué l'amour ».
C'est « J'ai tué l'amour », qui est « J'ai tué l'amour », donc le chanson titre. Et c'est une chanson assez méconnue de Barbara,
oui.
Qu'on interprète et qu'on peut écouter,
eh ben,
si on veut.
J'ai l'air comme ça, d'une moins que rien, qu'a pris la vie du bon côté, d'une fille perdue qui va son chemin sans trop chercher à s'y retrouver. Quand un garçon me fait la cour, ça me fait plus rien, j'ai l'habitude, ça m'amuse deux ou trois jours, puis je me retourne à ma solitude. J'ai tué l'amour parce que j'avais peur, peur que lui ne me tue à grand coup de bonheur. J'ai tué l'amour, j'ai tué mes rêves, tant pis si j'en crève. Je fais pas l'amour pour de l'argent, mais il ne me reste pas beaucoup de vertu. C'est presque aussi décourageant que de faire les 100 pas dans la rue. Maintenant mon cœur est ensablé, il a cessé de fonctionner. Le jour même où je l'ai quitté, sans trop savoir où ça me mènerait. J'ai tué l'amour parce que j'avais peur, peur que lui ne me tue à grand coup de bonheur. J'ai tué l'amour, j'ai tué mes rêves, tant pis si j'en crève. Thank you. temps, je pense que pour ma liberté, j'ai brisé, cassé notre chaîne. Quand je pense qu'il n'y avait qu'à s'aimer, qu'à mettre ma main dans la sienne. Maintenant je l'aime, ma liberté, comme un fardeau sur mes épaules. Elle me sert tout juste à regretter d'avoir joué le mauvais rôle. J'ai tué l'amour parce que j'avais peur, peur que lui ne me tue à grand coup de bonheur. J'ai tué l'amour, j'ai tué mes rêves. Aujourd'hui, j'en crève.
Voilà, donc on a écouté la J'ai tué l'amour, donc chanson de Barbara interprétée par Sota Salta.
Sota Salta.
Sota Salta.
Ouais.
Ah, merci de me corriger.
Oui, c'est ouais. Gratuit.
Et alors, j'avais plusieurs questions à propos de donc là, tu nous as dit pour J'ai tué l'amour, vous repreniez votre répertoire étant entièrement constitué de chansons.
Reprise. Oui.
De reprises, voilà.
Oui.
D'accord, d'accord.
Après, on les a arrangés pour deux voix, oui. et les instruments qui, du coup, vibraphone. Alors,
c'est de ça que je voulais te parler, en fait. Votre instrumentarium, comme on dit, est plutôt simplifié. Toi, tu as le vibraphone, mais il y a pas mal d'objets, de jouets. Pour quelle raison ce dispositif-là?
Bah, on voulait quelque chose qui... Déjà, Elsa, elle est chanteuse, elle n'est pas vraiment musicienne, mais elle aime bien jouer des choses, des petites choses, des jouets, des choses comme ça. Et elle trouve des choses, elle les amène, et puis on trouve une manière de les jouer. Du coup, on voulait quelque chose de très visuel aussi. Comme spectacle, c'est très visuel. Oui. On se déplace sur scène, il y a création de lumière.
Costume.
Donc, cet aspect visuel est très important. Et c'est toujours... pas toujours, mais souvent, la simplicité et l'aspect visuel priment des fois sur la complexité musicale. Mmh. Et c'est vraiment les voix qui portent, après le vibraphone aussi, évidemment, mais pour moi aussi, le vibraphone, si on a un spectacle avec du vibraphone non-stop, on n'en peut plus, en fait. Ouais. Ils font pause. Mmh. C'est un son magnifique, certes, mais... assez, c'est assez. je peux le dire parce que je suis vibraphoniste.
Bah oui.
Mais voilà, pour créer d'autres types de musique. Après, on voulait aussi, comme tout le monde rêve toujours d'avoir une valise qui tient... Non, un spectacle qui tient dans une valise. Du coup, on a certains morceaux qu'on peut faire comme ça dans la rue.
Oui. Alors, est-ce qu'il y avait aussi l'idée de vous... Alors, je ne dirais pas vous spécialiser, mais vous orienter peut-être dans la création de spectacles pour le jeune public?
Bah, je crois que avec Comme c'est étrange, on a non avec Comment ça va sur la terre, le trio. Moi, en tout cas, j'ai pris un très grand plaisir de cette public qui est tellement là et où il faut toujours travailler avec la salle. On a une salle qui est très très différente à chaque fois. J'aime aussi beaucoup jouer beaucoup. J'aime beaucoup jouer. Et joue le même spectacle plusieurs fois. Ouais. Et ça, en jeune public, on est bien servi parce que ça nous arrive de faire des séries, de rester sur place, de rencontrer plein de gamins, en fait. Et moi, je ne dirais pas que je me spécialise dans le jeune public, mais j'aime beaucoup le faire. Ça n'exclut pas du tout de faire des spectacles pour d'autres publics que le jeune public. Mais il y a quelque chose là qui, moi aussi, a beaucoup, beaucoup de sens.
Alors, est-ce que tu peux approfondir? Qu'est-ce qui te plaît dans ce public-là, justement?
Bah, c'est un public pas du tout blasé,
ouais,
qui sont prêts à tout. On peut mélanger tout ce qu'on veut, et il n'y a personne qui va dire « mais c'est étrange de faire ça comme ça », ou « l'étrange », c'est notamment notre thème pour le deuxième spectacle. Mais l'étrange, c'est pas... En fait, ils sont ouverts à découvrir de nouvelles choses. Je crois que cette spontanéité chez le public, c'est quelque chose... Que j'apprécie beaucoup.
Eh oui. Bah, je propose qu'on écoute justement un extrait de Comme c'est étrange.
Les trolls ne sont pas petits, les trolls ne sont pas gentils,
Ils sont grands comme des montagnes, ils sont gras comme du pâté de campagne. Ils sont laids, ils sont moches, ils sont bêtes, ils sont cloches. Non, les trolls ne sont pas petits. Les trolls ne sont pas gentils.
Comment sont leurs yeux?
Rouges, comme des soucoupes qui tournent dans le mauvais sens.
Leur nez?
Ils descendent jusqu'aux genoux et ça les gêne pour marcher.
Leurs oreilles?
Elles sont si grandes qu'ils s'en servent comme couverture.
Les cheveux?
Comme un buisson avec des oiseaux morts, de la vermine, des poux, des puces, des mouches, des tiques, des carpas...
Arrête! Tu fais peur, là.
Les trolls ne sont pas petits. Les trolls ne sont pas gentils. Ils sont grands comme des montagnes. Ils sont gras comme la saucisse de Mortagne. Ils sont laids, ils sont moches, ils sont bêtes, ils sont cloches. Non, les trolls ne sont pas petits. Les trolls ne sont pas gentils.
Les trolls ne sont pas petits.
Ils vivent la nuit.
Les trolls ne sont pas gentils.
Le soleil les pétrifie.
Les trolls ne sont pas petits.
Quand ils marchent, la terre tremble, les arbres se déracinent. Leur cri fait résonner les montagnes. Ils ont le cœur dur comme de la pierre. Ils cherchent de l'or, ils aiment tout ce qui brille. Les trolls ne sont pas petits. Les trolls ne sont pas gentils. Ils sont grands comme des montagnes. Ils sont gras comme des gâteaux de Bretagne.
Si tu te trouves sur leur chemin, tant pis pour toi. Ils se dévorent tout
cru.
Ils aiment la chair humaine et surtout celle des enfants qui ont peur.
Mais le troll est fier et il aime bien se battre.
Il est pas bien malin et ça c'est ta chance.
Le troll est lent et si tu es vif, tu peux gagner.
Il faut lui couper la tête pour le tuer.
Mais si tu rates, la tête repousse en double.
Si tu rates, la tête repousse en double.
Et c'est pourquoi il y a des trolls à deux têtes, trois têtes ou même sept têtes. Bonne nuit, fais de beaux rêves, reste dans ton lit. Ne va pas te promener tout seul dans la forêt.
Les trolls ne sont pas petits. Les trolls ne sont pas gentils. Les trolls ne sont pas petits. Les trolls ne sont pas gentils.
Les trolls peuvent-ils venir ? Ici.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Et aujourd'hui, on est avec Linda Etcheux. Etcheux.
Oui,
Etcheux. Et alors, on vient d'écouter Sauta Salta, un extrait de Comme c'est étrange. Alors, un des aspects du duo, tu l'as dit, c'est que vous chantez en suédois, en français, en plein de langues, mais c'est que vous chantez toutes les deux. Et donc, toi, tu chantes. J'aimerais savoir quelle est la place du chant dans ton travail, par rapport à la percussion, par rapport à tout ce dont tu nous as parlé, à l'enseignement de la musique. Comment cela est-il venu et est-ce que tu as travaillé ta voix?
Oui, j'ai commencé à chanter déjà avec Abby Patrick. C'était notre deal, le but, que je chantais et que lui jouait. Après, j'ai continué aussi, à la même époque, quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré une musicienne danoise qui s'appelle Birgitte Lygaard. Et on a eu une espèce de coup de foudre artistique et amical. Et malheureusement, elle est retournée au Danemark après quelques années. Mais le temps qu'on vivait dans la même ville, on a commencé à créer des choses ensemble. Et notamment, on a fait un portrait sonore d'une poétesse danoise. Et je composais pour nous, du coup, ces poèmes qui étaient extrêmement inspirants. Et souvent, je lui transmettais les mélodies en chantant.
Oui.
Et puis, je dis oui, mais... Et elle dit, non, mais toi, tu vas chanter aussi. Non, mais c'est beaucoup mieux qu'on chante toutes les deux, à l'unisson, à deux voix, ou des contre-chants. Et elle m'a vraiment encouragée aussi. Du coup, j'ai commencé à chanter avec elle. Et elle jouait aussi. C'est un peu la même chose qu'avec Elsa, que... Elle voulait jouer et moi je voulais chanter. Donc on a échangé des compétences, entre guillemets. Et avec ça, j'ai vraiment aussi pris goût à cette chose de... Quand on est instrumentiste, surtout percussionniste, on regarde ce qu'on fait, on a le public qui est là, mais quand tu chantes, on lève les yeux, on regarde les gens, on le transmet quelque chose beaucoup plus directement et j'ai vraiment pris goût à ça. Et surtout de chanter aussi avec quelqu'un d'autre qui chante très bien aussi, comme le cas avec Elsa. Du coup, plus tard, ce duo-là aussi m'a... C'est une espèce de transmission. Elle ne me donne pas de cours de chant.
Ouais.
Mais le fait de chanter ensemble, d'essayer de mettre sa voix dans la voix de l'autre, ça fait qu'en fait, c'est super enrichissant. À côté de ça, j'ai compris que j'allais tourner en jeune public... chanter beaucoup et qu'il fallait avoir un minimum de technique pour ne pas casser la voix. Du coup, j'ai commencé aussi à prendre des cours de chant à Paris avec Martina Catella ça m'a beaucoup apporté aussi. Mais je crois que c'est vraiment en faisant et du coup en chantant avec ces personnes aussi plus tard. On parlait, il y a Elle Miller qui est notre chanteuse qui chante aussi, mais toute une autre manière. Mais tout ça, ça fait du coaching vocal au même temps qu'on travaille.
Ah bah super.
Upspiel, uspiel, spilt. Upspiel, uspiel, spilt. Upspiel, uspiel, spilt. Upspiel, uspiel, spilt.
Med fremtidens grå elektroder spændt fast til hukommelsens blegede fingerspids. Fremtidens grå elektroder spændt fast til hukommelsens blegede fingerspids.
Opspillet, udspillet, spilt. Opspillet, udspillet, bi. Opspillet, udspillet, bille, bi. Opspillet, udspillet, bille, bi.
Står jeg og stammer. Står jeg og stammer. At jeg vil være,
vil være,
vil være.
Opspillet, bille, bi.
On a écouté Inger. Et alors, revenons sur comme c'est étrange. Tu sais que nous, c'est l'étrangeté. Des fois, en présentant l'émission, je parle de musique étrange.
Oui.
Tu vois, singulière, étrange. C'est un thème qui nous est cher. Mais alors, je voudrais savoir qu'est-ce que ce termes, ces notions d'étrange recèlent pour vous, qu'est-ce que ces notions vous permettent d'aborder comme sujet?
Nous, on voulait parler de l'étrange. Ce qui nous intéressait, c'est cette chose, c'est quelque chose de trop étrange, on le rejette. Mais si c'est juste un peu étrange, ça nous titille, ça réveille notre curiosité. Du coup, on voulait jouer avec... En fait, quelque part, de petit à petit, amener les enfants vers des choses de plus en plus étranges. Et aussi, on a l'étrange comme l'étranger. Ouais. Moi, je suis étrangère. Du coup, sur scène, on a deux langues déjà. On va aussi parler des langues inventées. On a une pièce de Jean-François Vroux. Oui. On peut écouter un petit extrait, mais où il invente des mots. Et en fait, les enfants ne comprennent pas, mais ils comprennent quand même. Parce qu'étrevanage, ben, on comprend un peu, mais on ne comprend pas complètement. Donc, c'est tout le temps ce jeu-là d'être sur les limites de ce qui fait peur, mais pas trop peur, ce qui est dégoûtant, mais drôle en même temps. Toutes ces limites-là, ça nous intéressait beaucoup. Et après, évidemment, aussi l'aspect musique étrange, comme de musique qui gratte, qui frotte un peu, mais tout ça dans une bonne dose aussi, avec des choses où on peut chanter à tue-tête avec nous et se réjouir de ces choses-là. Après, c'est pas le spectacle le plus étrange du monde non plus, mais c'est le thème.
Est-ce qu'on écoute Jean-François Vroux?
Oui,
je me suis glette vrac mou.
Glette vrac mou?
Glette.
Ah?
Vrac.
Ah.
Mou.
Et travanage.
J'étais là, figola les partards et vam.
Et travanage. Très étravanage. Et tu glonglons des fois?
Non, vrac mou, c'est tout.
Glette, vrac mou.
Palvederne, palvederne, ce ne sont donc que des palvederne. Palvederne, palvederne, ce ne sont donc que des palvederne. Comme cette et rangette, rangette. Comme cette et rangette, rangette.
Palvederne, palvederne, ce ne sont donc que des palvederne. Palvederne, palvederne, ce ne sont donc que des palvederne.
Que homme cette étrange,
que homme cette étrange,
comme cet étrange,
un vieux loup sans dents.
Je suis
un vieux
loup sans
dents
et
j'ai
presque
sans
un an.
Comment faire,
comment faire
pour manger un gros mouton?
Comment faire,
comment faire,
car je sais que c'est très bon. Comment faire,
comment faire?
J'ai envie d'un bon gueuleton.
Comme c'est étrange, un ange sans aile.
Je suis
un ange,
je sens,
je suis
un ange,
je sens aile.
Je suis
un ange,
je sens,
je suis
un ange,
je sens aile.
Que
je
la
suis
tour
bien
est
plus faible,
je
que
suis
la
bien
tour
plus
est vieux.
Faible.
Comment faire,
comment faire
pour monter
là,
tout là-haut?
Comment faire,
comment faire?
Il faut prendre l'escalier.
Quoi? Quoi, 10 euros pour monter là-haut?
Autant s'acheter des ailes.
Oui, des ailes d'ange.
Ou acheter des Schrucklevespierklef. Ou des Barzingoles en
Sblong. Ou des Fifiratou Bédaglon. À longue portée.
Oui, des Marlocos Compusa.
À longue portée.
Oui, le modèle K avec rétro-pédalage. À vrai dire, je ne me suis jamais vraiment posé la question de savoir si ceux qui étaient là pouvaient avoir une autre place. Il est certain que d'un certain point de vue, dont on pourrait d'ailleurs longuement discuter, ceux qui étaient là pourraient très bien ne pas y être. Et pourtant, il y a
des choses
qui, même
si elles ne
sont
pas là,
nous font
sentir
leur
présence.
Oui.
C'est étrange. Range, 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 range.
Étrange.
Être.
Je.
J'être.
Oui. J'étrange.
Oh, c'est pas possible.
Mais si, mais si.
Oh, c'est pas possible.
Mais si.
Oh, c'est pas possible.
Mais si.
Alors donc on vient d'écouter un extrait d'une pièce de Jean-François Vroux par Ceuta Salta.
Oui, et une pièce qui s'appelle Étravanage.
Ouais. Et alors j'aimerais que tu nous parles de la prochaine étape, je crois, pour votre duo, qui est l'association avec le Spat Sonore de Nicolas Chenmaille. Alors déjà, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la particularité de cet ensemble qu'on...
Alors c'est un dispositif sonore, on va dire. Peut-être. Et en fait, Nicolas, depuis un paquet d'années, il invente des instruments qui encerclent le public. Du coup, le public se trouve au milieu, autour d'une arène de tuyaux, et chaque instrumentiste ou spatiste a plusieurs pavillons. et on peut envoyer notre son dans des pavillons différents. Du coup, c'est une musique spatialisée en direct, avec des musiciens en direct. Et ça crée quelque chose de très particulier.
Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler du projet que vous avez en commun avec le Spat Sonore et nous parler peut-être de la légende du, j'ai mal le dire, du Necken ?
Necken, non, Necken. Pas trop mal. Oui, en fait, on voulait, du coup, avec Nicolas et Elsa, c'est, on peut dire que c'est nous tous les trois qui sont à l'origine de ce projet. Et on voudrait parler de la musique qui enchante, qui nous manipule, qui nous attire, qui nous, mais aussi la musique qui soigne, en fait, quelque part la musique magique.
Oui.
Où, ça peut être, du coup, Necken, c'est qui a donné le nom de spectacle, mais c'est un des légendes ou motifs qu'on va évoquer. C'est une espèce de sirène masculin. Qu'on a dans le folklore suédois et norvégien. C'est un être qui vit dans les lacs ou dans les fleuves et qui a comme but d'attirer les gens dans l'eau pour qu'ils se noient. Et aussi avec la particularité qu'il joue du violon. Et si on veut apprendre de jouer le violon, on peut aller voir le Necken le jeudi nuit. Il a toutes sortes de croyances autour de ça. Et il faut faire super attention parce qu'évidemment, si on le fâche, bah, il peut te casser la main ou bien sûr, tu peux très bien te noyer aussi. Mais les violonistes, du coup, les grands musiciens, disaient souvent qu'ils avaient cette mythologie autour d'eux qu'ils avaient appris avec le Necken. Et il était un peu. En fait, c'était bien pour le business aussi de dire que bah, lui, il a appris et joue le violon. De Necken, il faut faire attention parce qu'elle peut te faire danser jusqu'à la mort. Et c'était assez présent pendant jusqu'à assez récemment.
Ah d'accord.
Oui, je crois que même dans les années 1920-30, on parlait encore des musiciens qui avaient appris avec le Necken.
Ah, c'est génial.
Ouais.
Alors, tu vas composer une partie du répertoire, je crois, et est-ce que tu vas, du coup, intégrer des éléments de spatialisation dans ta partition, lors de la composition ?
Oui, c'est très intéressant, en fait. On est en plein dedans. On a fait déjà deux grandes étapes de travail. On a bientôt une troisième qui tombe. Du coup, Nicolas aussi m'a invité de participer à d'autres projets avec Spat Sonore aussi pour que je comprends un peu mieux le dispositif. Et évidemment, ça change la manière d'écrire.
Oui.
Déjà, j'ai compris qu'il ne faut pas que j'écrive trop. Parce que c'est une perte de temps et il faut qu'on fasse des arrangements ensemble avec la dispositif, avec tous les musiciens qui sont... on a avec nous aussi Efildar Bor, qui est extrêmement créative. Avec son, il connaît très beaucoup mieux son instrument que moi. Du coup, ce n'est pas la peine d'essayer de décider ce que vont faire les autres.
Oui, d'accord.
Et puis, pour les voix, de vraiment penser qu'on est... du coup, on est Elsa et moi qui chantent, mais aussi une troisième fille qui s'appelle Nina... Elle s'appelle Nina.
Ouais.
Et la nom de famille aussi qui m'échappe pour l'instant. Pardon, Nina. Et donc, on est trois à chanter et on peut vraiment faire des effets avec ça. Du coup, il y a un autre moment où on est comme trois sirènes autour du public qui leur dit « Écoutez-nous, écoutez tous, vous êtes dans la tempête et il faut nous écouter, on va pouvoir vous sortir de ça. » Et un truc... Donc, ça crée effectivement une écriture très particulière.
Spatialisée. Oui, parce que je crois qu'il y a aussi la disposition du public qui n'est pas frontale.
Non, il s'assoit dans le spat, des fois, et tout le monde se met dans le même sens, mais ça change parce que du coup, il va se passer des choses derrière eux, autour d'eux.
Ouais. On avait reçu Nicolas Schenmeil pour qui nous avait expliqué tout ça. Alors, on ne va pas écouter, puisque ça, c'est en création.
Non, c'est en création.
Et donc, on va écouter, par contre, plusieurs extraits peut-être même de In This House, le spectacle que tu vas créer, qui a déjà été créé, mais que tu vas jouer ce soir et demain soir à l'Atelier du Plateau. Et puis on en parle après.
Hallenstjärna, vi på träd.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne, partout ailleurs radio-libertaire.net, l'émission Les Oreilles Libres avec aujourd'hui Linda Etche. Alors Linda, on a écouté des extraits de In This House. Alors on te reçoit aujourd'hui, c'est la présentation du solo a lieu ce soir à l'atelier du plateau, on l'a dit. Tout simplement, peux-tu nous présenter le spectacle, nous dire quel en est l'argument ?
Alors, nous avons acheté une maison, et puis il y avait le confinement, et moi j'étais hyper frustrée parce que j'allais créer un solo, j'avais décidé ça avec le dispositif sonore qu'on avait inventé avec Faye, qu'il y avait ma sœur qui allait faire une scénographie, tout ça était bloqué, et en plus, tout était bloqué. On a tous vécu des moments assez... voilà, même si on est dans de bonnes conditions. Mais du coup, j'ai eu ma sœur scénographe au téléphone. Elle dit, mais pourquoi tu cherches des objets sonores, mais il n'y a rien là chez toi? Et j'ai commencé à fouiller. Et la première chose que j'ai trouvée, c'était des clés. Ce n'est pas des clés à molette, c'est des clés fixes. Oui. Et qui était là, sous quelque chose, et qui sonnait super bien. Et ah, voilà un instrument de musique, génial. Du coup, j'ai commencé à jouer avec ça, mettre des effets sonores. Je me suis éclatée. Après, j'ai commencé à dire, mais c'est ça, en fait. À travers ces objets, je vais raconter l'histoire de cette maison. Mais c'est plutôt les histoires de cette maison. Parce que d'abord, c'était... ces clés, c'était pas du tout... les Parisiens qui avaient été là avant nous, ouais. C'était beaucoup plus vieux, mais il y a aussi tout ce qu'ils avaient laissé, parce que pour la petite histoire, les gens qui étaient là avant nous sont partis très vite, parce qu'il y a eu un décès, une histoire assez dure, et l'homme qui restait, il était désespéré, il dit, mais je ne peux pas vider tout ça pour l'été. On a dit, mais ne vous inquiétez pas, prenez ce que vous voulez, on s'occupe du reste, vous pouvez même mettre des choses à côté, venir les chercher plus tard. Et ils nous ont laissé, si je dis tout, je n'exagère pas, mais très gentiment, en fait, il avait des accessoires de couture. Tout d'un coup, je trouve toujours tout ce qu'il me faut. Dans la cuisine, il y avait tout. Il avait tous les accessoires pour faire du jardinage. Il a tout. Il a même des petites bâtonnettes avec les herbes, les noms des herbes écrits dessus. Du coup, au fur et à mesure, je me sentais très en relation avec... les gens qui avaient été là avant nous, qui avaient laissé une espèce... C'était plus comme un héritage qu'un achat. Et en fouillant, j'ai aussi commencé à trouver les traces de la vie de la ferme avant. J'ai commencé aussi cette chose d'être isolée à la campagne. Du coup, j'ai commencé à penser à la vie avant, parce que pour nous, aller à la campagne, c'est quelque chose de très romantique. Mais je crois que c'était pas toujours que ça.
Non.
Avant. et voilà, j'ai commencé à avoir une espèce d'amour pour cet endroit, cette maison, et je voulais raconter notre histoire de notre arrivée là, mais aussi l'histoire de la maison, des maisons qui sont vécues beaucoup plus longtemps que nous et qui vont vivre beaucoup plus longtemps que nous aussi.
Ouais.
Donc, oui.
Et ça, à travers le rapport avec ces objets, le rapport à ces objets, ces objets que tu fais sonner, en fait.
Oui.
C'est ça, hein, tu joues avec.
Donc, la plupart des objets qui sont sur scène, c'est des trouvailles de cette maison. Du coup, après, mis en scénographie, qui est une espèce de maison. Et donc, je fais sonner, mais il y a aussi des histoires que je raconte. Oui. Et des chansons qui, du coup, sont des chansons. C'est de la poésie que j'ai mis en musique, et dont la poésie que j'ai trouvée aussi dans cette maison.
Ah,
j'ai tombé sur un livre d'un poète danois que j'adore, qui était traduit en français. Ils avaient ça.
Ah,
et c'est quelqu'un que je connais pas personnellement, mais presque. Après, il y avait aussi la poésie de la femme qui vivait dans cette maison, qui m'a aussi beaucoup touchée. Du coup, et c'est une espèce de mélange de plein de choses, mais voilà.
Alors, et je crois aussi, dans le spectacle, ce qui est important à dire, c'est qu'il y a une scénographie, un décor, je pense, qui ont une importance particulière. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, en fait, c'est drôle, parce que les impulsions de ce spectacle, ça venait des deux choses. C'était Fake, qui est donc très improvisé, où j'ai des microphones sur le poignet et où il fait 20 lignes, traite les sons en direct. Et c'est toujours dans l'instant, c'est toujours improvisé. Et j'avais envie d'explorer, de rester, d'explorer chaque son plus. Mmh. Et puis, une très forte envie de travailler avec ma sœur, qui est architecte, scénographe. Et de ces deux choses-là sont un peu nées le projet. Et Anna, donc ma sœur, elle m'a dessiné une maison avec juste des lignes de crayon.
Oui.
Et là, c'est un peu une reproduction d'une maison, mais un peu aussi une reproduction de son dessin avec des lignes de crayon. Donc, il y a une structure d'une maison avec tous ces objets-là, avec des choses accrochées, des choses que j'accroche. Donc, on a une espèce de reconstruction imaginaire d'une maison.
Alors, tu as dit, donc, tu as ces objets. J'imagine que tu as tes instruments également, le vibraphone, non ?
Non.
Ah, d'accord. Ah oui. Et par contre, j'ai vu que dans le générique, je ne sais pas comment on dit, dans le line-up du spectacle, j'ai vu la présence de Wilfried Wendling. Donc, j'imagine qu'il y aura de la technologie également.
Il y a pas mal de technologie. Oui. Et la part de Wilfried dans tout ça, c'est un peu lui qui m'a donné les outils, mais aussi lui qui a dit, mais je voudrais faire ça, est-ce que tu veux le faire avec moi, est-ce que tu as un autre compositeur que tu peux recommander? Il a dit, non mais vas-y Linda, fais-le toi-même, je vais te soutenir, je vais t'aider, mais c'est toi qui fais, tu peux le faire. Et il m'a vraiment montré des pistes, aussi des méthodes de travail. Vu qu'on a travaillé beaucoup ensemble, j'ai un peu compris son système à lui, mais il m'a transmis des outils et aussi plusieurs fois pendant la création, il a été fait une oreille extérieure avec des conseils, etc. Donc il
n'y
a pas des compositions concrètes de lui, mais il a un concept.
Et alors le spectacle a été créé, je crois, en février au Théâtre de Vanves. Est-ce qu'il a évolué depuis ?
Oui, il est en train d'évoluer parce que là. Oui, il a évolué, évidemment, parce que chaque reprise, on revisite, on retravaille. Après, il n'a pas changé de structure, du contenu, mais c'est comme chaque chose qui grandit, et qui a un temps de repos et après un temps de reprise. Mmh. Du coup, évidemment, les choses bougent.
Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu aimes bien jouer en duo, tu as pas mal de duos. Et là, tu te retrouves en solo. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux ? Qu'est-ce que ça change pour toi ?
Je crois que j'avais aussi, après toutes ces années de coups avec beaucoup de duos, avec Abby Patrick, Salsa Birger, Birgit Lugaud, Yael Miller, j'avais besoin aussi d'être seule et de prendre toutes les décisions artistiques et autres. Et je crois que j'avais quelque chose à vivre. Comme ça, seul. Et depuis, j'ai fait aussi un autre solo. Je crois que c'est une sensation de liberté et aussi de sentir ses limites, se pousser un peu plus loin.
Bon, alors tu ne seras pas seul ce soir et demain, puisqu'on sera là.
Oui. Là. Je ne suis pas seul. J'ai aussi deux techniciens avec moi. Du coup, en vrai, c'est un trio. Je ne pourrais rien faire sans eux.
Et lumière, j'imagine.
Lumière et son.
Tu peux les citer peut-être.
Oui. C'est Samuel Marie qui a fait la création de lumière et aussi participé beaucoup à la scénographie. Et Mathieu Siron, qui est aussi notre fidèle compagnon avec Sota Celta, qui a fait un travail formidable parce que moi j'ai plein d'idées et des initiatives au niveau technologique, après il faut les réaliser. Moi je peux réaliser en scène, mais lui est capable de tout enchaîner.
Super, on va voir ça ce soir et demain soir. Là, pour l'instant dans l'émission, je propose qu'on passe un extrait de Le Petit Livre des Grandes Choses. Et on en parle après.
Oui.
Un grand livre. La botte. La table.
Chien.
Une étoile.
Machine à laver.
La machine à laver. La douche.
Botte.
Le potiron.
Citrouille.
Le chien. Le lavabo.
Table.
Le bus. Un immeuble.
Arbre.
La tour.
La louche.
Un grand livre.
Petit livre, petit livre. Des grandes choses. Petit livre, petit livre. Des grandes choses. Le chien, la louche, la botte, le potiron. La machine à laver, l'arbre, la table, le lavabo.
La louche, la botte,
table,
la table,
machine à laver,
un immeuble,
le potiron,
la tour, le toboggan,
le lavabo,
un beau livre, toboggan, étoile,
une étoile,
une pervée,
la botte,
le bus. Une baie vitrée.
Botte.
Un immeuble.
La louche.
Une étoile.
Petit livre, petit livre. Des grandes choses.
Petit livre, petit livre.
Une étoile.
Petit livre, petit livre.
Petit, 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 petit livre.
Des grandes choses.
Petit, petit, petit livre. Des grandes choses. Petit, petit livre. Petit, petit, petit livre. Des grandes choses.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres, qui va toucher à sa fin dans quelques temps, dans peu de temps. Et nous sommes aujourd'hui avec Linda Etcheux. Alors, parmi tes autres créations, il y a ce dont on vient d'écouter un extrait, le petit livre des grandes choses. De quoi s'agit-il, tout simplement?
Bah, c'est la Muse en circuit, encore une fois, centre de création musicale à Fortville, et qui m'ont demandé de faire un livre sonore pour Livre pour grandir, qui est une initiative du département Val-de-Marne. Mmh. Ils envoient un livre à tous les nouveau-nés du département, et du coup nous avons fait une version sonore avec Wilfried Wendling. On a créé un livre sonore qu'on peut écouter super. Sur Deezer, etc. Avec assez contemporain, du coup il y a toutes sortes de musiques là-dedans, on va dire, surtout les musiques électroniques. Et là actuellement je crée une toute petite forme d'une demi-heure qui est là pour une fois. C'est un spectacle qui tient vraiment dans dans une boîte. Et avec Hala Goshen qui fait un regard extérieur pour ce spectacle, on se balade dans les crèches de département de Val-de-Marne actuellement.
Ah, super.
Donc je retourne à Ormesson, Fresnes, etc. Tous ces bleds, et on s'installe dans une crèche ou dans une médiathèque, et on accueille des spectateurs qui ont entre 18 mois et 3 ans.
Ah, c'est super.
3 ans grand max, hein, parce que voilà. Donc ils sont entre... Il y a ceux qui parlent un tout petit peu déjà et ceux qui ne parlent pas, et ça se passe très bien.
Ah bah oui, j'en doute pas. Alors, parmi tes autres projets, il y a ce duo avec Yael Miller, oui. Vixa. Alors, tu sembles la connaître depuis quelque temps, Yael Miller.
Oui, c'est aussi... C'est une amie de plutôt longue date, mmh. on va dire, une rencontre amicale et musicale. Et on va dire que ce projet-là, c'est un projet qui est un peu sur stand-by. Il avait eu des naissances et des choses comme ça, mais on va écouter un extrait.
Ouais, alors pour terminer l'émission, on écoutera un extrait. Mais ce que je voulais savoir, c'est quelle était votre idée en créant ce duo, musicalement, vers où allez-vous comme esthétique musicale?
Bah là, c'est du coup, on est plutôt sur de l'électro et jouer en direct. Je sais pas si on est un peu sur les transformations de son aussi, mais moi, c'est donc Yaël qui est avec son prophète, son grand synthé. Ouais. Et moi, je joue du vibraphone et d'autres percussions. Et on a aussi des sons électroniques. Et puis, on écrit toutes les deux des chansons. Et c'est... On est plutôt sur des thèmes assez engagés. Voilà.
Ouais. Alors, connaissant Yaël Miller, qu'on a reçu dans l'émission, et on a reçu Donia Bereri, avec elles forment toutes les deux le duo, le groupe, d'ailleurs c'est plus un duo, le groupe Rhizome, voilà, exactement. Je sais qu'elles sont assez polyglottes, elles parlent dans plusieurs langues, alors je pense qu'avec toi, ça va être aussi ça. Okay.
Oui, je crois qu'on a, du coup, là on est sur du... suédois, hébreu, français, anglais.
Ah, super.
Si j'oublie pas. Non, mais c'est nos langues principaux.
Ouais.
Donc, entre toutes les deux, oui, ça fait assez polyglotte.
Bon, bah, très bien. Alors, Linda, quelles sont tes prochaines idées? Peut-être pas très élaborées, juste, tu sais, les trucs qui nous passent par la tête et qu'on ne fait pas forcément, mais des fois, on les fait. Est-ce que tu as des idées comme ça, des envies, tout simplement, de création?
J'ai lu quelque chose sur... Mais c'est tellement pas élaboré.
Ah, c'est pas grave. On aime bien savoir, nous.
Comment est-ce... Oui, non, mais je crois que... Non, j'ai rien qui est assez concret pour en parler.
Bon, d'accord. d'accord.
Déjà, avec la création de Neckend, je suis jusque-là. Je suis pas très, très... Si, je peux dire quelque chose. Et... Non, je ne parle pas, parce que sinon, ça devient...
Bon, bah,
tu sais, des fois, on a des petites idées, et si on en parle, ça gâche un peu le truc.
Le Neken, il va venir.
Le Neken va venir.
Très bien. Alors, peux-tu nous donner les dates de tes prochains concerts? Alors, il y a ce soir et demain, à l'atelier du plateau, pour le solo In This House.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a d'autres concerts à venir?
Alors, oui, il y a espace de choses. Je vais partir avec l'ensemble des Dalus en Dresde en janvier. Bon, là, je crois que tout le monde qui sont en Dresde, venez écouter Eno avec l'ensemble des Dalus. Et puis, on joue avec Abby Patrick, on joue notre vieux création Pas de Deux à Amiens. Et comme c'est étrange, je vais jouer à Vincennes.
Oui.
Du coup, c'est un jeune public. On joue début février, 2-3 février. Et puis, notamment, Neckend va avoir sa création le 28 février. Et,
c'est où ça?
Voilà. Ça, c'est dans le 44, Carré d'Argent.
Uh-huh.
Et ça rejoue aussi à Valette, un peu plus tard. Mais toutes ces dates, on peut les retrouver sur mon site, évidemment.
Ben merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup, Linda. On va se quitter avec Vixa. À la semaine prochaine, nous diffuserons l'entretien que nous avons avec Flora Gesselbrecht et Paul Schubert. Ben merci beaucoup, Linda. Et à bientôt.
À bientôt.
Merci. Hein. On se quitte avec Vixa, donc ton duo avec Yaël Miller. Allez, merci. Salut.
Stolen. Where did our future go? Continents burning. Stolen. Where did hope go? Where did hope go? Stolen. Where did our future go? Continents burning. Stolen. Where did hope go? Where did hope go? It has never been so clear. You cannot trust what you hear. We
wouldn't trust what you just said. I'll try to think instead. This isn't happening to me, not to you, not to anybody near, but to everyone. Everybody is a threat. I know you're scared of me. Out of fear, out of respect.
Oh God, I need that cigarette.
Stolen, stolen. Where did the future go? Continents burning. Stolen. Where did hope go? Where did hope go? Stolen, stolen. Where did our music go? Continents burning. Stolen, stolen. Where did hope go? Where did hope go?
It has never been so clear. True face of the world. We failed the crash test, what a shame. Everyone was in the car. It has never been so clear. Privilege is privilege. Choice or no choice. What was built has been deconstructed, was built has been deconstructed, was built has been deconstructed, was built has been
stolen, stolen. Where did our future go? Continents burning. Stolen, stolen. Where did hope go? Where did hope go?
So hard to keep direction. So hard to keep my spirit sane. So hard to keep my distance. So hard to stay obedient.
So hard to keep direction. So hard to keep my spirit sane. So hard to keep my distance. So hard to stay obedient. So hard to keep direction. So hard to keep my spirit sane. So hard to keep my distance. So hard to stay obedient. Disobey, 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 disobey. So disobey, 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 disobey. Disobey, 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 disobey. So disobey, 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 disobey.
Bad, 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 bad